Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Gabon, trois projets de loi renforçant l'égalité hommes-femmes ont été adoptés en Conseil des ministres le 23 mars pour être présentés au Parlement. L'un des textes introduit le divorce par consentement mutuel et l'adultère commis par l'homme ou la femme pourra être un motif de séparation pour les deux époux et non pas seulement du mari. Selon le code civil actuel, la femme doit obéissance au mari qui est le seul chef de famille, a rappelé la première ministre Rose Cristiano Sucaraponda, soulignant que grâce au nouveau projet de loi, la femme partagera avec l'homme le rôle de chef de famille. Tout fait de violence contre un conjoint pourra également entraîner le divorce. Fin mars, en Côte d'Ivoire, 38 enfants burkinabés destinés au travail dans les mines illicites et les plantations agricoles ont été secourus. « Nous ne pouvons permettre ce trafic inhumain », a déclaré la ministre de la Famille et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko, promettant une lutte acharnée contre le travail des enfants. Quatre trafiquants ont été déférés devant la justice, a indiqué Luca Baka, directeur de la lutte contre le trafic des enfants. La Côte d'Ivoire est une importante destination du trafic d'enfants en provenance des pays frontaliers. 1083 enfants ont été secourus en 2020. Plus d'1 million ont été engagés dans la culture du cacao en 2013 et 2014, selon l'ICI, une fondation suisse qui lutte contre le travail des enfants dans la filière. L'Université de Californie du Sud a accepté de verser plus $1 milliard à des centaines de femmes. Un tribunal de Los Angeles a validé un accord à l'amiable de $852 millions pour plus de 700 victimes d'abus sexuels d'un ancien gynécologue du campus de l'établissement. Cette somme s'ajoute à un accord de $215 millions en 2018 dans le cadre d'une action de groupe au niveau fédéral. Le docteur George Tyndall, 74 ans, a fait l'objet de centaines d'accusations de patientes au cours des 30 dernières années. Malgré les signalements répétés, il n'avait jamais été inquiété jusqu'à une enquête interne en 2016 déclenchée par une infirmière. Le gynécologue, qui a toujours nié les faits, est parti à la retraite en 2017 à la faveur d'un accord avec l'USC. Visé par une enquête de police depuis 2019, Tyndall est en liberté sous caution.
Parole de femme.
Au Sénégal, deux femmes se sont lancées il y a quelques années dans le domaine très fermé de la mécanique automobile. À Dakar, le garage Fatou Fatou est dirigé par Fatou Camara et Fatou Silla depuis 2005. Des mécaniciennes qualifiées qui font le même travail que les hommes tout en assumant leur statut de femme et de mère de famille. Partons à leur rencontre à travers un reportage de Sedina Abagay.
Très tôt dans la matinée, les deux Fatou sont déjà au taquet. En uniforme de travail, elles réparent une Mercedes blanche de modèle récent. Fatou Camara et Fatou Silla sont les fondatrices et les gérantes de ce garage mécanique automobile spécialisé en Mercedes. Un atelier qui tourne depuis 2005 avec des femmes qui ont une expérience de 26 ans. Alors, pourquoi la mécanique ?
Parce que la mécanique, c'est passionnant comme métier. Depuis toute petite, on aimait ce métier. On aimait faire la bricole.
Fatou Camara est mariée et mère de plusieurs enfants. Malgré l'exigence de son métier, elle arrive à concilier son rôle de chef de garage et d'épouse.
Oui, je suis madame Paye. Pour moi, il n'y a pas de problème. Être femme mécanicienne ou être femme docteur, c'est pareil pour moi. C'est pas difficile. Quand on est au garage, tu vas faire ce que tu dois faire, c'est de travailler. Arriver à la maison, tu es une femme. Il suffit seulement d'avoir un mari qui te comprend. Si tu as un mari qui te comprend, tu peux gérer tout ça. C'est pas difficile à faire. Tout dépend de l'homme et de la famille aussi.
Sa sœur et collaboratrice Fatou Silla a suivi la série académique S3. Elle a acquis une grande expérience lors de son passage dans le garage. Elle avoue être qualifiée de garçon manqué à cause de son métier, une appellation qui ne la dérange guère. Elle en rit plutôt car elle a un mental fort. De plus, elle aime son métier.
La mécanique, c'était réservé aux hommes. Mais maintenant, tu vois beaucoup de femmes qui font ce métier. Moi, personnellement, on me taxe de garçon manqué, mais ça ne me gêne aucunement. Au contraire, je suis fière. Parce que pour moi, la mécanique, c'est dans la tête. Donc, pour moi, tout ce qu'on peut, la femme peut le faire. Et j'ai pas de problème dans ma famille, parce que mon père et ma mère m'ont soutenu jusqu'ici. Et que j'avoue que c'est un long chemin et c'est pas facile. Parce qu'à chaque fois, je dis que la mécanique, ça s'apprend au jour le jour. Avec les nouvelles voitures, la technologie. Mais pour moi, tout ce que, si tu veux quelque chose, tu peux arriver.
Voici le message qu'elle envoie à la jante féminine.
Je conseille aux jeunes filles de redoubler d'efforts et de tenir bon.
Fatou Camara et Fatou Silla sont devenus incontournables dans le secteur de la mécanique automobile à Dakar. Leur garage, nommé Fatou Fatou, est parvenu à avoir une notoriété et une reconnaissance des pairs et du public grâce à l'abnégation et au professionnalisme de ces deux femmes qui sont parvenues à briser les stéréotypes d'un domaine généralement réservé aux hommes. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Dans un entretien avec LMF, la réalisatrice et productrice guinéenne Isabelle Kolkolloa parle de l'immigration irrégulière des femmes africaines et de son film The Way, qui est l'histoire d'un jeune homme poussé par sa mère à tenter le voyage clandestin alors qu'il souhaite rester en Guinée pour y monter son entreprise.
The Way est un film moyen-métrage qui parle de l'immigration et qui traite de l'angle préventif de l'immigration. Alors, j'ai mis en scène un jeune homme qui, après plusieurs stages, n'obtient pas de travail et qui décide d'investir dans la restauration, donc d'être son propre patron. Parallèlement, il y a son meilleur ami qui, lui, pense que la meilleure solution, c'est que le jeune homme parte à l'aventure. Il se trouve que la mère de notre personnage principal est déjà très intéressée par le projet de voyage. Et elle est prête à donner tout cela pour que son fils puisse faire ce voyage. Il se trouve qu'alors le fils, ne pouvant pas convaincre sa mère, décide d'accepter la proposition de sa mère. Mais en réalité, en complicité avec sa petite amie, il n'est allé nulle part. Il a juste pris les moyens qu'avait sa mère pour financer le voyage. Et il a mis ses moyens à la disposition de son projet d'entreprise. Et il a quitté la maison, aller s'installer juste à quelques parties de maison de sa mère et investir dans son entreprise. Et pendant 4 ans, il n'a donné aucune nouvelle à sa maman, le temps pour lui de se construire et de faire quelque chose de sa vie. Donc, lorsque sa mère en a eu marre de la solitude, c'est là que le jeune homme devient plus rayonnant que jamais. Il a décidé de monter son entreprise en restauration puisqu'il avait un talent naturel qui est la gestion des affaires au service de son talent.
Pourriez-vous nous dire quel est le profil en particulier des gens qui décident de partir? Et s'il y a des femmes, justement des femmes et des jeunes femmes qui décident de partir?
Oui, il y a beaucoup de jeunes femmes qui décident aujourd'hui de partir pour l'immigration irrégulière. Il y a aussi beaucoup d'étudiants. Il y en a aussi qui n'ont pas étudié, qui quittent l'intérieur du pays, viennent dans la capitale, avec en tête l'unique projet, partir. Donc, après l'exode rural, ils viennent, ils sont un peu de taxis, motos, ici pendant un an, deux ans, qui leur permettent de pouvoir partir. Mais les personnes les plus démunies restent ici parce qu'ils n'ont pas de quoi partir puisque le voyage coûte excessivement cher. Il faut avoir au moins 5 000 euros pour pouvoir entamer ce genre d'aventure. J'ai eu des témoignages avec des migrants retournés. Il y a des jeunes filles qui étaient là, qui avaient des petites entreprises et qui ont arrêté pour partir parce qu'il y a des pays comme le Koweït où il y a une forte représentation de femmes guinéennes qui partent et il y a des gens qui viennent leur dire « Ok, on finance le voyage pour vous ». Et quand ils quittent là-bas, c'est l'enfer. Donc après, elles reviennent et les témoignages sont très pathétiques.
Quelles sont les motivations principalement de ces jeunes femmes? Est-ce que c'est essentiellement économique?
Les gens ont tendance à croire que l'Eldorado, c'est l'Occident. Donc, il y a une grande majorité qui part seulement par volonté de vivre dans un milieu plus confortable, selon eux. Donc, il y en a aussi qui partent vraiment pour des questions économiques, mais là, pour les femmes, c'est juste une ambition de vouloir changer de vie, pour la plupart.
Est-ce que ces jeunes femmes qui partent sont exposées à certains dangers lorsqu'elles effectuent ce voyage?
Elles sont exposées à beaucoup de dangers. Elles sont même plus en danger que les jeunes hommes qui voyagent. Parce que nous avons eu à avoir des témoignages de jeunes filles qui étaient emprisonnées même pendant le voyage dans le désert, qui sont obligées de payer leur voyage par leur corps ou qui sont échangées par les passeurs qui les exploitent, qui les vendent comme des jouets sexuels. Nous avons des témoignages qui soulèvent tout ça. Il y en a qui ont eu à avoir des bébés dans le désert et on leur arrache ces bébés et on les vend à des personnes. Donc, il y a 1000 histoires. Il y a des femmes qui ont eu des bébés dans le désert, mais qui sont revenues sans leur bébé.
C'est dans quel pays en particulier, ouais, quand vous dites dans le désert?
Généralement, c'est la Libye, non? C'est la Libye. Parce que la plupart de toutes les femmes qu'on a eu à rencontrer, qui préfèrent garder l'anonymat dans leurs témoignages, sont passées par la Libye.
Qu'il faire pour éviter que cela arrive, hein, que tous ces jeunes et en particulier ces jeunes femmes partent comme ça à l'aventure dans des conditions extrêmement dangereuses?
D'abord, c'est une volonté. Il faut bien que les gens sachent que l'Eldorado, ce n'est pas forcément chez les autres. Et de deux, il faut que les autorités concernées par la situation s'impliquent dans la gestion de cette crise en donnant plus de possibilités à ces jeunes qui investissent dans, disons, le secteur tertiaire pour la plupart. Et donc, il y a des petits commerces, des petites moyennes entreprises. Les autorités doivent soutenir ces femmes. La plupart sont souvent celles qui n'ont pas fait des études, qui sont manipulables. Donc, il suffit qu'elles voient deux amis sur Facebook qui rayonnent et qui disent que, il faut que je parte. Mais lorsque les jeunes femmes sont formées à la base, même si elles ne sont pas allées à l'école, mais il y a des formations professionnelles, ça leur permet de dépasser leur nature, qui permet aux images de les manipuler. Donc, il faut former les jeunes femmes à s'émanciper, à se tracer leur propre chemin.
Alors, à ce propos, est-ce que le gouvernement a des programmes de retour? Par exemple, vous avez parlé de ces jeunes femmes. Est-ce qu'elles sont prises en charge lorsqu'elles reviennent parce qu'elles se retrouvent dans des situations extrêmement fragiles, on imagine?
En fait, l'OIM, l'Organisation mondiale de la migration, est présente dans notre pays. Donc, la réinsertion sociale existe ici. Il y a aussi un office national de formation et de perfectionnement professionnel qui organise des ateliers de formation pour ce genre de candidats ou pour d'autres jeunes femmes, potentielles candidates à l'immigration. Donc oui, il existe des mécanismes de réinsertion dans le pays.
La réalisatrice et productrice guinéenne Isabelle Kolkolloa était jointe à Conakry. Selon une nouvelle loi en Nouvelle-Zélande, les femmes faisant une fausse couche ou donnant naissance à un enfant mort-né et leur conjoint ont droit à un congé spécial de 3 jours. Ce congé payé adopté le 24 mars évitera aux femmes de se mettre en arrêt maladie. La députée travailliste Ginny Anderson a expliqué que de telles circonstances devaient être reconnues comme donnant droit à un congé dédié. Le deuil qui accompagne une fausse couche n'est pas une maladie, c'est une perte et il faut du temps pour s'en remettre, a-t-elle dit devant le Parlement, expliquant que cette loi s'inscrivait dans une longue tradition législative qui a fait de la Nouvelle-Zélande un pays pionnier pour le droit des femmes.
Si jeunesse pouvait.
Les données des Nations Unies montrent que les pays du Sahel ont les taux les plus élevés de mariage infantile au monde et plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Au Burkina Faso, Henry Wilkins a rencontré une jeune femme qui a été mariée de force à l'âge de 12 ans à un homme de 54 ans. Aujourd'hui, elle encadre d'autres victimes de mariage d'enfants. Le récit est de Dili Diko.
Au Sahel, une région semi-aride qui longe le Sahara, des pays comme le Burkina Faso ont des taux de mariage infantile les plus élevés au monde. Viviane Sawadogo, dont nous avons changé le nom pour protéger son identité, vit au Burkina Faso, où selon l'ONU, plus de la moitié des fillettes deviennent des enfants mariés. La famille de Viviane l'a forcée à se marier à l'âge de 12 ans.
Quand j'avais 12 ans, je faisais la classe de CM2. On m'a donné en mariage à un homme qui avait à peu près 54 ans. Il avait 4 femmes et plusieurs enfants. Et je me suis sentie mal à l'aise car j'avais une forte envie de continuer mes études que de me marier aussitôt. Ça, j'ai décidé de me saper à chez Fléau. Un matin, j'ai sorti de la maison, marché de 8h à 23h, plus de 30 km. Et malheureusement, on m'a retrouvé sur la route et me faire ramener chez lui encore. J'étais totalement découragée et je n'ai pas baissé les bras. Cette même nuit, j'ai repris la route.
Après s'être échappée, Viviane a trouvé refuge dans un foyer fondé par une église pour aider les filles fuyant un mariage précoce. Elle a vécu ici pendant 10 ans et a pu poursuivre ses études. Aujourd'hui, Viviane a 22 ans. Elle est étudiante à l'université. Elle a quitté le centre, mais revient régulièrement pour encadrer des jeunes filles qui, comme elle, ont fui pour échapper à un mariage précoce.
J'ai quitté mon mari parce que je ne l'aimais pas et parce qu'il avait déjà 3 femmes et plusieurs enfants. Je suis ici au centre depuis quelques mois. Ce foyer m'aide en me donnant des vêtements, de la nourriture et en me scolarisant. Cela me rend très heureuse.
Le don de filles à une autre famille est une pratique culturelle courante au Sahel, tout comme l'enlèvement de jeunes filles en vue d'un mariage. Pour Dapoa Naba, un leader communautaire Mossi, la pauvreté est à l'origine du problème.
Le fait que les filles sont données en mariage, c'est parce que les parents pensent qu'ils n'ont pas des moyens de prendre en charge en famille. Donc pour nous, une fille qui est victime de mariage d'enfant, okay, il faut qu'on trouve un moyen pour l'autonomiser.
Le Burkina a mis en place au moins 800 cellules de veille dans au moins 872 villages pour mener des actions de communication, des actions de prévention. Pour cela, on a sensibilisé pas moins de 4 millions de personnes sur le phénomène du mariage d'enfants.
Malgré de nombreux obstacles comme le conflit au Sahel qui dure depuis 2012, Viviane rappelle qu'il est impératif de faire en sorte que les enfants puissent échapper au mariage précoce.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Lors d'une audition à l'Assemblée nationale française, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est dite favorable à des quotas de femmes dans les entreprises, après avoir pris conscience qu'en l'absence d'une telle mesure, il faudrait 140 ans avant d'atteindre la parité selon elle. Auditionnée par la délégation aux droits des femmes, Madame Lagarde a suggéré de commencer par des incitations et d'évoluer vers un système plus contraignant avec un mécanisme qui permettrait de vérifier si les engagements sont tenus. L'ancienne directrice du FMI estime qu'on ne peut pas se contenter de quotas généraux, mais qu'il faut aller dans les détails au risque d'une trop grande concentration de femmes dans les échelons de direction les plus bas.
Soit les jeunes ou les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Entre parenthèses.
Au Togo, des élèves sont impliqués dans des opérations villes propres, notamment à Anéo, ville côtière à une quarantaine de kilomètres à l'est de Lomé. Anéo, ville verte, ma commune éco-togolaise, est un projet communal qui se focalise sur la valorisation des déchets en impliquant les écoles. Le reportage de notre correspondante au Togo, Kailosson, qui s'est rendu dans cette ville touristique.
Anéo, ma ville lumière sans déchets.
C'est à cet idéal que s'attellent les nouvelles autorités de la ville d'Anéo. Deux fois capitale du Togo, la ville tricentenaire est confrontée à des défis climatiques et environnementaux. Anéo est un territoire qui est situé entre la mer, la lagune et le lac. Pendant que l'érosion la grignote, sa population l'étouffe de sachets plastiques et autres déchets recyclables. Après réflexion, il a été décidé de mettre les élèves à contribution pour faire d'Anéo une ville verte. Alexis Akereboro, maire de la commune Lac 1.
Ce projet est une démarche pédagogique à l'endroit de la population pour leur faire comprendre que la propriété de la ville dépend de chacun d'entre nous. Mais ce message ne peut être mieux porté que si nous le faisons véhiculer à travers les enfants dans le cadre d'un projet éducatif. Et donc c'est pour cela que nous avons fait le choix. Des écoles primaires, notre ville n'est pas propre. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et le meilleur moyen de la rendre propre est de demander aux enfants de nous aider à avoir une ville verte.
L'initiative Anéo Ville Verte, ma commune éco-togolais, fait du tri sélectif le soubassement du projet. Les meilleurs élèves, collecteurs de déchets recyclables, seront récompensés avec des kits scolaires et des lampes solaires. Edem d'Almeda, responsable de Africa Global Recycling, partenaire du projet.
En alliant la question du tri sélectif par les élèves, nous récupérons des déchets recyclables qui ont de la valeur et qui vont permettre à fournir davantage de lampes solaires aux élèves.
Des élèves sensibilisés sur la thématique ont écrit des poèmes.
Je m'appelle Atis Odifaoni, j'ai 8 ans, je suis au CE2. Dans mon poème, j'ai dit « De nos fils allient, notre ville à Néro ». Parce qu'une ville propre fait que nous sommes en bonne santé. Si je vois quelqu'un qui jette les déchets dans la rue, je lui dis de reprendre les déchets et de les mettre dans la poubelle.
Rendre à la ville touristique d'Anéo, où l'on peut admirer l'embouchure, sa beauté naturelle, est au prix de ses initiatives écologiques. Kailosson, de retour d'Anéo pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.